Lune Riboni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à Paris 8 et vous publiez un livre intitulé « Vidéoactivisme, contestation audiovisuelle et politisation des images », un ouvrage dans lequel il est beaucoup question du pouvoir de l'image.
Absolument.
Sans les images, on y reviendra peut-être tout à l'heure, le soulèvement en Tunisie par exemple n'aurait pas eu lieu en 2011.
En tout cas, c'est ce que évoquent certaines personnes que j'ai pu interroger en Tunisie. C'était une phrase qui revenait, oui.
Votre livre évoque les premières images militantes, comme celles des premiers groupes ouvriers. Ces images-là, dans les années 60, on les doit à des professionnels.
Oui, disons qu'au début, c'est plutôt des cinéastes ou des étudiants de cinéma qui s'engagent et qui utilisent l'image comme un outil de contestation, de soutien des mobilisations sociales.
Ils veulent donner une autre image, peut-être, une autre vision du monde. Ça peut être le cas pour des groupes militants, des groupes LGBT, même s'ils ne s'appellent pas comme ça à cette époque-là, ou bien parce qu'on estime que certaines populations sont sous-représentées.
Oui, c'est ça, c'est changer les représentations qui sont celles des institutions, institutions d'abord du cinéma, et puis institutions médiatiques ensuite, de la télévision. Et donc effectivement, c'est essayer d'amener des corps, des subjectivités, des existences qui ne sont pas présentes à la télévision ou dans le cinéma, raconter d'autres récits aussi, d'autres histoires invisibilisées. Et puis c'est aussi plus tard, pas simplement transformer les représentations, mais aussi interroger les outils mêmes que sont la télévision, se réapproprier la télévision avec tout un tas d'expériences comme ça autour de télévision alternative par exemple, et puis jusqu'à Internet, où là encore c'est pas que défaire la représentation, mais c'est aussi s'approprier des outils et défaire aussi des formes et des modes de récit.
Ces télévisions alternatives dont vous parlez, ça permet de beaucoup parler des collectifs de travailleurs sans papier.
Il y a eu beaucoup de choses autour de ça, mais aussi les premières luttes écologiques autour du nucléaire, par exemple. Longtemps, hein, ça a été des formes films. Et puis ensuite, effectivement, voilà, des formes plus télévision alternative avec des formes de programmes. On reproduit le programme télévisuel, alors évidemment transformé en inventant d'autres formes. Mais effectivement, qui accompagne des luttes féministes, on l'a dit, ouvrières, mais aussi écologiques, par exemple. Et puis qui vont aussi pas forcément simplement documenter des luttes, mais amener d'autres récits, comme je le disais.
Ce n'est pas encore une distribution très grand public.
Non, c'est pas encore très grand public. Ça reste, disons, au début, donc c'est plutôt des cinéastes, des gens formés au cinéma. Et puis ensuite, on va avoir plutôt des gens qui viennent pas nécessairement du cinéma, mais qui sont plutôt des militants, on va dire, ancrés dans la gauche radicale, dans les expériences des années 90, 2000, tout le mouvement altermondialiste, par exemple. Et effectivement, l'audience là est encore un peu limitée, quoique déjà on accède à des formes d'audience assez importantes. Et puis il va y avoir des expériences très puissantes aussi, comme par exemple Indie Media, qui est déjà sur Internet et va toucher énormément de gens dans le monde.
Dans les années 90, l'évolution, c'est celle du matériel qui rend l'image presque accessible à tous. Ce n'est plus seulement une affaire de professionnel.
Voilà, précisément. Il y a une démocratisation des outils. Donc d'abord des outils de prise de vue. Et effectivement, donc on le sait, cette histoire, on la sait vaguement. Hein. Voilà, on passe de ces grosses caméras des cinéastes et puis on arrive d'abord aux caméras Super 8, pellicule, puis au caméscope. Et puis on va arriver donc au téléphone portable qu'on a dans nos poches. Et cette démocratisation, bien sûr, elle va transformer nos rapports aux images et à comment est-ce qu'on documente aussi notre quotidienneté, le monde qui nous entoure. Et puis aussi, on va avoir une démocratisation des technologies de diffusion. Et c'est aussi ça qui est important. C'est pas juste qu'on peut faire des images, c'est qu'on peut les diffuser avec, bien sûr, l'émergence d'Internet en particulier.
Avant l'Internet tel qu'il est actuellement, il y a des images qui sont très largement diffusées, comme par exemple en 1991, la vidéo du tabassage de Rodney King, qui est un noir frappé par la police et filmé par un voisin. Et là, à l'époque, c'est la télévision qui va passer ces images en boucle.
Absolument. Donc là, on est en 1991 aux États-Unis. Et cette vidéo, donc filmée par un voisin, d'un fait qui, malheureusement, a lieu régulièrement, surtout dans cette ville de Los Angeles, pour le coup, elle est enregistrée pour la première fois. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a un contexte médiatique favorable à ce moment-là. Donc la vidéo, elle est d'abord transférée à une télévision locale, qui est une télévision de Los Angeles. Et puis ensuite, elle va arriver à CNN. CNN qui est assez jeune, puisqu'on est en 91, qu'elle a quelques années de diffusion, mais qui est déjà une chaîne importante et qui va diffuser cette vidéo de manière en boucle quasiment jusqu'à ce qu'un des acteurs de cette chaîne parlera de cette vidéo est devenue un papier peint de la chaîne. Voilà, donc ça donne une idée de sa circulation. Et donc évidemment, ça va participer à son impact.
La vidéo va jouer un rôle social considérable puisqu'il va y avoir des émeutes, mais elle n'a pas de poids judiciaire. Les policiers ne sont pas condamnés.
Alors oui, c'est tout le paradoxe de cette histoire et c'est pour ça qu'elle est si marquante. C'est qu'à la fois, elle va signer la conviction qu'en fait, il faut filmer potentiellement la police en particulier, puisque voilà, y a beaucoup de cas comme ça de violence policière, mais aussi que l'image ne suffit pas, en particulier dans le contexte judiciaire qui est un contexte qui a ses propres règles, ses propres manières de faire. Et dans ce contexte-là, la vidéo ne va pas suffire à prouver, même pire, c'est-à-dire que on va se servir de la vidéo pour faire dire autre chose que ce qu'on avait l'impression d'y voir. Et donc renverser le sens de certains gestes, par exemple, qui d'un geste de défense devient un geste d'attaque. Et c'est ça qui est très troublant. Quand on regarde cette vidéo, on a l'impression d'un sens univoque. Et en fait, finalement, on va se rendre compte que non, qu'on peut en changer le sens. Et donc effectivement, elle va avoir un impact très fort, à la fois donc pour les luttes antiracistes, mais aussi pour la conviction du rôle des images dans les luttes sociales.
Dans les années 2000, l'image est partout. Et là, cette fois, les réseaux sociaux permettent aux vidéos de circuler. On voit beaucoup les gilets jaunes qui se filment.
Bien sûr, les gilets jaunes se sont beaucoup filmés. Et alors là, bien sûr, c'est pareil. On peut pas dire que c'est la vidéo qui a permis les mobilisations, tout comme ce n'est pas Facebook qui permet les mobilisations. Mais on voit bien qu'il y a un investissement très fort dans les images, qui sont de plusieurs ordres, ces images. Il y a bien sûr des images de documentation. On filme les manifestations, on filme des actions, on filme des moments. Mais aussi tout ce volet d'images qui va être très marquant, de gens qui se filment et qui prennent la parole face caméra. Ces vidéos face caméra qui sont des témoignages, qui sont des récits, qui sont des coups de gueule, expression qu'on emploie pas mal à ce moment-là. Toutes ces vidéos-là, elles vont aussi être très marquantes parce qu'en fait, elles vont produire un commun une expérience, la conscience en fait d'une expérience partagée, d'une exaspération, d'une indignation, d'une difficulté à vivre. Et c'est par aussi ce partage des témoignages que se fait une conscience partagée et donc potentiellement que se fait un mouvement social.
Et il y a à l'époque une tentative du pouvoir en place de limiter cette diffusion d'images.
En tout cas, ce qui va se passer, c'est que on va, en particulier sur les images de vidéos de violences policières qui vont être très 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 nombreuses à ce moment-là, qui circulent énormément sur les réseaux, les médias traditionnels en tout cas vont très peu en parler. Il y a un article de vos collègues d'Arrêt sur Image qui enquête vraiment le processus d'émergence de ces images et comment est-ce qu'elles finissent par atteindre en fait le système médiatique traditionnel. Elles mettent beaucoup de temps. Et ça, c'est quand même intéressant. Et c'est aussi intéressant de se rappeler que la diffusion sur Internet est très importante, bien sûr, mais le passage dans le système médiatique traditionnel, qu'on pourrait dire, ce que sont les grandes chaînes de télévision, de radio et de presse, est quand même nécessaire pour qu'il y ait, à un moment donné, une réaction des pouvoirs publics. Voilà. Tant qu'on reste sur Internet, on peut se passer d'une réaction.
Cédric Chouviat, le livreur mort pendant un contrôle de police. Michel Zecler, qu'on avait reçu en Livre France d'ailleurs, passé à tabac par des policiers à l'entrée de son lieu de travail. Plus récemment, Naël, il n'est pas dans votre livre car c'est encore plus récent, mais ce sont des images qui, là encore, ont un impact considérable.
Oui, parce que en l'occurrence, pour ce qui est de Michel Zecler et pour ce qui est de Naël, elles prouvent quand même, en tout cas pour le moment et aux yeux communs, on va dire, on verra ce que dira la justice, mais il y a une espèce d'évidence du fait qu'elles prouvent le fait que la version policière n'est pas juste. C'est le cas dans le cas de Naël, c'est le cas dans l'affaire Michel Zecler, et ces images-là vont quand même prouver une autre version. Et ça, c'est quand même extrêmement important, et Michel Zecler le dira d'ailleurs, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu d'image? Eh bien, sa version probablement aurait été parfaitement invisibilisée. Et la contradiction policière, puisque c'est une voix qui porte plus, aurait prédominé. Voilà, donc là, c'est vraiment des cas où, au contraire, en tout cas dans le débat public, ces vidéos, elles prouvent.
Parfois, ces images sont retournées, notamment les images de vidéosurveillance.
Oui, alors il y a différents registres d'images et quand on pense, donc il y a bien sûr les images qu'on évoquait, celles des témoins, celles éventuellement des militants militantes, celles des cinéastes, et puis il y a des images de vidéosurveillance, donc c'est le cas dans l'affaire Michel Zecler également. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a des expériences effectivement d'utiliser ces images-là pour leur faire dire autre chose. Donc on peut aussi avoir un retournement, tout comme on a eu un retournement dans le procès Rodney King, mais dans l'autre sens, on va dire. Donc là, c'est le cas par exemple de ce qu'a fait le collectif Forensic Architecture, qui est donc un collectif qui utilise des matériaux qu'ils trouvent en particulier en ligne et qui s'en sert donc pour construire des argumentaires, généralement pour dénoncer des violences dans le monde, pas qu'en France. Et l'exemple que je donne à la fin du livre, c'est celui donc de ces images de vidéosurveillance de la mer Méditerranée, qui vont permettre à Forensic Architecture de prouver qu'en fait un bateau transportant des réfugiés qui a coulé et donc qui a mené à la mort ces hommes et ces femmes aurait pu être secouru malgré ce qui a pu être dit, puisque des bateaux étaient dans la zone et qu'il n'y a donc pas eu d'assistance, en fait ils n'ont pas porté assistance et potentiellement volontairement. Et donc ces images là qui servent au contraire à contrôler et justement à potentiellement fermer l'accès en fait à ces réfugiés vont permettre de prouver qu'il y a eu non-assistance à la personne en danger et qu'on les a laissés mourir en mer. Voilà, donc c'est un exemple en fait de comment est-ce qu'on peut utiliser des images de vidéosurveillance pour retourner aussi le sens.
Lune Riboni, merci. Je rappelle le titre de votre livre « Vidéo activisme » paru aux éditions Amsterdam.